Bien, bonsoir à toutes et à tous. Dernière séance ce soir, donc consacrée au messianisme. J'ai un petit peu changé de titre, s'appelle ça le messianisme, enfin, rédemption et réparation, ou comment préserver l'horizon d'une attente propre à l'histoire. Mais je vais y revenir. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir donc lors de ces trois dernières séances? On a vu que tous les auteurs qui pensaient, en tout cas à partir de Job, avaient, et on l'a fait à leur suite, en tout cas, déblayé trois voies. Au fond, une première voie qui était l'épreuve de la souffrance, une fois éprouvée la souffrance et l'insensé de cette souffrance. C'était la séance numéro 1, donc... La séance numéro 2, l'idée de l'absence de Dieu, ou en tout cas le surgissement d'un athéisme ou d'une croyance raisonnable, mais je vais y revenir un tout petit peu aujourd'hui. Ensuite, nous avons essayé de comprendre quels sont les mécanismes du mal nouveau et du pire contre lesquels le juste lutte en général. Et c'est finalement après ces trois moments ou ces trois voies que l'on peut se poser la question aussi du sens de l'existence, du sens du désir de vivre, après ce qui s'est passé au fond, de la croyance, du sens du projet, du sens de l'avenir. Et ça sera au fond notre question d'aujourd'hui, comment préserver l'horizon d'une attente propre à l'histoire. Alors il semble au fond que deux voies se précisent, avec chacune leur ramification, mais on va essayer de ne pas trop complexifier la chose. Deux voies simples, d'abord celle du salut, ou ce que je vais préférer, celle du messianisme, mais le terme est un petit peu le même si on fera quelques différences. Je garderai le second terme, le messianisme, parce qu'il me semble plus prometteur. Ou la deuxième voie, celle de la sagesse, soit du salut, du messianisme, soit de la sagesse. Pour aller vite, la première, le messianisme, qui fait fond sur l'idée d'attente inquiète, sur l'idée aussi d'affrontement, d'espérance, d'accomplissement futur. La seconde, la sagesse, qui, elle, au contraire, n'attend pas l'événement, qui ne croit ni aux promesses, ni aux récits, ou aux grands récits, et qui ne fait que découvrir, au fond, une sagesse tragique dans l'histoire, qui ne fait que découvrir le rôle du négatif, et pas tellement du mal, mais du négatif qui va avec le positif, et qui fait fond sur un monde qui est composé tel qu'il est, qui fait fond sur un monde composé comme il est, tel qu'il est, et au fond dont notre tâche serait de le préserver tel qu'il est, voire même en revenant sur certains acquis de la modernité, certains acquis du progrès, etc. Alors, je vais tout de suite régler le compte de cette deuxième voie, c'est-à-dire de la voie de la sagesse, parce que ça ne sera pas, en tout cas, ma voie personnelle, ni celle que je travaillerai ce soir, même s'il faudrait lui accorder peut-être plus de temps, parce qu'elle me semble d'ailleurs dominante dans l'histoire de la pensée ou dans la pensée actuelle. Quelle est cette seconde voie, celle de la sagesse? On a généralement à l'intérieur de cette seconde voie l'idée d'une fin de l'histoire. Vous savez, c'est le thème propre à Francis Fukuyama, dans un livre qu'il avait écrit en 1989 sur l'idée de la fin de l'histoire. Fin de l'histoire que l'on retrouve chez beaucoup d'analystes, mais généralement chez aucun d'entre eux, enfin, ou plutôt chez chacun d'entre eux, on va dire. Même chez Fukuyama, quand on lit bien son texte, fin de l'histoire, mais sans happy end. Sans happy end, l'idée du moins pour l'Occident, qu'il y a effectivement une possible satisfaction, on serait sorti de l'histoire, il y aurait une satisfaction totale des besoins de l'âme humaine, évidemment très variable suivant les individus, mais globalement, il y aurait une satisfaction totale des besoins de l'âme humaine, ou d'une possible satisfaction totale des besoins de l'âme humaine. Nous serions dans une société de relative abondance, de relative sécurité, et au fond, il faudrait s'en réjouir. Ça n'empêche pas d'ailleurs chez ces mêmes analystes l'idée que d'être inquiet quand même devant la marche actuelle du monde. Ça n'empêche pas chez ces analystes de mettre en place l'idée d'une crise de l'avenir, une dépression générale au fond, due à ce que d'ailleurs ils voient bien tous dans leurs analyses, due à ce, comment dire, à cette tension qui serait la nôtre aujourd'hui entre accélération du temps, notre vie de plus en plus accélérée, difficile, etc., en général, et puis, en même temps, une espèce d'immobilité du temps présent, on a l'impression que rien ne se passe, alors tout s'accélère, au fond, rien ne se passe. Et chez l'ensemble de ces analystes, on sera en face de l'idée d'une mélancolie, une certaine mélancolie de l'impuissance, au fond, on ne peut pas faire grand-chose face à ce qui arrive, et devant une histoire devenue assez immaîtrisable, donc au fond, mélancolie, donc impuissante, devant une histoire devenue immaîtrisable. Je note qu'il y a de multiples usages idéologiques de ce thème, à droite comme à gauche, je laisse ça de côté, mais on peut voir souvent ce thème arriver. Alors, dans ce type d'analyse-là, il y a évidemment des voies plus intéressantes, que je ne fais que signaler là encore. Soit on en revient à une expérience toute naturelle du monde, à la manière chinoise, par exemple, chez François Julien, c'est des thèmes qu'on retrouve chez ce philosophe. Donc, monde de la polarité, monde de la nature, monde de la lenteur responsable, au fond, il ne s'agirait pas d'activer les choses, il s'agirait de devenir de plus en plus sage face à ce monde très immaîtrisable. Soit une expérience naturelle d'ordre présocratique, moi je suis un philosophe que j'aime bien par ailleurs, chez Marcel Conche par exemple, mais chez ceux qui le suivent aussi, cette idée d'une nature qui serait là, ça a à voir avec un certain romantisme, hein. Le monde d'avant était mieux, il y a retour à des mondes rêvés, que l'on voit, on en avait parlé lors du cours que j'avais fait avec Philippe Corcuff sur ce qu'on voit dans la fantaisie par exemple, dans la science-fiction aussi de temps en temps, le monde d'avant avait des critères qui étaient beaucoup mieux, etc. Il y a une sagesse à retrouver. Ou alors un monde en suspens. Alors, ce monde en suspens, c'est la version, j'ai envie de dire, écologique, classique, celle qu'on voit très bien, par exemple, chez Hans Jonas, dont on a parlé ensemble, dans ce livre qui est Le principe de responsabilité, qui est, un livre important pour la pensée écologique ou post-écologique, où, au fond, il nous dit, maintenant, l'homme, il a une responsabilité, mais envers le monde, responsabilité envers le monde, qui inclut, d'ailleurs, vous rappelez chez lui, hein, l'idée que nous avons aussi une responsabilité envers Dieu, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes responsables de la transcendance, hein, autant on est responsable du monde et de la nature et de tout ce qui meurt, tout ce qui disparaît, autant... il faut sauver le vieux maïs, il faut sauver tout ça, enfin bon, vous voyez bien tout le thème, ce qu'il y a là-dedans. Ça veut dire aussi s'occuper du Dieu qui est faible. Quelqu'un comme Hans Jonas, par exemple, le dit très bien, il ne croit pas du tout au messianisme. Le messianisme, pour lui, c'est la démesure de la pensée humaine, des entreprises humaines. Et on préfère donc cette thématique de la responsabilité, du principe responsabilité, plutôt que celle de l'espérance. Responsable pour ce qui est ou ce qui a été, et pas du tout, évidemment, pour ce qui peut venir dans le futur. Et donc, on abandonne dans ce cadre-là, Hans Jonas le dit à longueur de livre, l'horizon ultime d'une réparation. On verra le mot tout à l'heure, le mot pour les Juifs, c'est le tikkun. Il n'y a pas de réparation, en tout cas des choses, réparation du monde. Mais au contraire, on retourne à la création, la sauvegarde de la création, création inlassablement réinvestie sous le phénomène du vivant qu'il faut sauver, qu'il faut protéger face à toutes les manipulations possibles, vivant qui exige notre protection, notre responsabilité face à cela. Donc on en appelle là encore à la nature, aux soucis du monde, contre presque la politique, contre une morale qui invoquerait l'idée abstraite du bien, où l'homme voudrait remodeler le monde, etc. Non, au contraire, il vaut mieux protéger les choses. Vous voyez ce thème aujourd'hui chez Finkielkraut, chez Sloterdijk, etc., chez un certain nombre de penseurs actuels, sous différentes variantes, mais au fond, l'idée est la même. Tout ça accompagné évidemment d'une certaine mélancolie la plupart du temps, il faut sauver des choses, etc. Bon. Alors, précisément, je ne suivrai pas cette voie-là, en tout cas. Je reviendrai d'ailleurs sur l'opposition entre création et rédemption. Je pense qu'il y a une réelle opposition aujourd'hui entre un style de la création, au fond, ou de protéger ce qui est de la responsabilité pour le monde, et puis un style, quelque chose d'autre, au contraire, qui pense qu'il faut réparer, dépasser, voire révolutionner certaines choses, en tout cas. Donc on suivra plutôt l'autre voie, la voie messianique, proposée par un certain nombre de penseurs. Ici, ce seront plutôt ceux qu'on va suivre, penseurs juifs allemands, en tout cas, qui ont écrit soit pendant les années 20, 30, et puis évidemment pendant la période nazie, soit évidemment après-guerre, et dans un dialogue, là encore, avec Job, puisque c'est ça qui nous intéresse. Alors, ce dialogue avec Job, ou en tout cas que ce messianisme juif va travailler, pourquoi ils investissent Job? Parce qu'il y a un passage dans Job, un passage essentiel où Job étant en pleine souffrance, chose qu'on avait déjà vue, qui est attaqué par ses trois amis, par Dieu qui lui renvoie la création, par un certain nombre de choses. Il y a un tout petit passage dans ce texte-là que tous vont reprendre pour le commenter, pour aller plus loin à partir de ce passage. Je vous le relis. Il est en 19, 25, 27, pour ceux qui veulent revoir le texte. Alors, il y a plusieurs traductions, bien sûr, mais on va essayer un petit peu de simplifier la chose, là encore. Voilà comment il est traduit par Saint Jérôme, hein, donc en latin, mais dans le texte araméen et hébreu. « Je sais, moi », à un moment il dit ça, hein, il dit « Je sais, moi, que mon défenseur », alors le défenseur, le mot c'est « Goël », bon, on y reviendra, « Go » plus loin, « El », « Je sais, moi, que mon défenseur est vivant, que lui, le dernier, se lèvera sur la poussière. Après mon éveil, il me dressera près de lui, et de ma chair, je verrai Dieu. Celui que je verrai sera pour moi, celui que mes yeux regarderont ne sera plus un étranger. » Texte un petit peu compliqué, mais l'idée c'est « Je sais, moi, que mon défenseur est vivant ». Alors, comment on peut le retraduire aussi, l'idée c'est « Mais je sais moi que mon Goël est vivant et que le dernier sur la terre, il se lèvera et si l'on arrache la peau de ma chair, même après cela, je verrai Eloa, je rêvais, celui que moi je verrai sera pour moi et celui que mes yeux regarderont ne sera pas un étranger. Ensuite, mes reins languissent dans mon sein, etc. Bon. » Qu'est-ce que c'est que cette idée? C'est un Messie, c'est l'idée du Messie, hein, le Goël, je vais y revenir sur la signification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Goël? C'est l'idée du Rédempteur, du Messie, c'est le même mot. Hein. Donc, il annonce un Messie, au fond, ou il voit un Messie, enfin, on va voir. Il appelle un Messie, il invoque un Messie. Le verbe Goël, ça vient du verbe Gaal. Le verbe Gaal, ça veut dire rédimer, ça veut dire donc racheter, quelque chose va racheter. Ça veut dire aussi venger, hein, donc c'est un vengeur. C'est quelqu'un qui a l'idée de réclamer le sang, ici en tout cas, le Goël, hein, c'est, et donc Géoula, c'est la rédemption, donc c'est l'appel à la rédemption, donc l'appel à une action. Je note que l'idée de rédemption n'a rien à voir ici dans le cadre avec l'idée chrétienne. L'idée chrétienne de rédemption, c'est une idée assez, comment dire, douceâtre, on va le dire. Là, on a quand même l'idée de qu'est-ce que c'est que le Goël? Normalement, c'est dans le vrai, c'est un proche parent, c'est un héritier qui venge un assassiné, qui venge un meurtre, qui venge un délit, etc. Donc, on a l'idée que, œil pour œil, dent pour dent, il y aura une vengeance qui devrait venir, en tout cas, racheter quelque chose de cet ordre-là. C'est le vengeur de sang, hein, dont parlent d'autres textes, d'ailleurs, de la Bible. Ce Goël, évidemment, il a été vu longtemps après dans la tradition comme la préfiguration du Christ, ou comme l'appel du Messie, c'est pour ça que ce texte-là intéressera aussi ensuite le christianisme, mais ici c'est une sorte de prince justicier qu'on avait déjà dans les traditions égyptiennes, cananéenne, etc. Le thème, c'est quand même le thème de la justice concrète. Il y aura une justice concrète, il y aura quelque chose qui sera racheté, rédimé, et on a la construction d'une nouvelle possibilité de justice qui devrait arriver. Et donc là, c'est très étonnant parce que c'est Job qui parle. Dieu, alors que Dieu est en train de dire « Obéis-moi, suis ce que je suis », Job, au contraire, parle d'autre chose, de quelque chose qui va racheter les souffrances. Il parle de générosité, il parle, lui, d'humilité, d'amour, des choses comme ça, voire de temps en temps de manière assez ironique. En tout cas, ici, on a ça. Alors, on avait déjà un Job, si vous voulez, qui évoquait le souvenir, le passé, les jours heureux, les œuvres et les jours, au fond, tout ce qui avait été donné, les vertus sociales, la justice. Et puis là, on a un Job, au fond, qui fait signe vers l'espoir, vers l'espérance, quelque chose qui va encore plus loin que la simple bonté actuelle ou présente, mais qui pense le futur ou l'avenir. Pourquoi il le dit à ce moment-là? C'est un moment aussi important, c'est-à-dire que c'est un Job, au fond, où il voit que l'harmonie est rompue, la nature est devenue ombrageuse, assassine. C'est la nature, hein, je vous rappelle, la création que Dieu avait donnée comme réponse à Job. Hein, au fond, Job lui demande le pourquoi de sa souffrance, quel est le sens de tout ça. Dieu lui avait répondu, écoute, tu n'étais pas là quand j'ai créé tout ça, toute cette variété du monde, cette beauté, etc. Tu n'as pas la puissance que j'ai, donc au fond, tout ce que tu demandes est rien par rapport à la nature, à la création en général. Et donc là, Job oppose à la création l'idée de rédemption ou de réparation. Je vais prendre une image plus bête, mais au fond, il dit, tu as créé quelque chose, mais dans cette création, et ça ne fonctionne pas. C'est comme quand vous ramenez votre voiture chez le garagiste, OK, j'ai la voiture, etc., mais ça ne marche pas. Il fallait prévoir aussi la réparation. Il faut prévoir il faut me donner une réponse. Je veux le manuel d'utilisation de la chose. Je veux qu'on puisse réparer la chose. Je donne une image, mais c'est cette image-là aussi qui peut apparaître. Je veux pouvoir aller plus loin. Au fond, ce que Job est en train de faire, c'est qu'il fait signe vers l'au-delà. Il fait le signe véritablement vers le messianisme. C'est-à-dire seule la rédemption, seule la réparation des choses pourra lui donner de l'espérance, au fond. C'est dans cette idée de rédemption, en tout cas, qu'il y a possibilité de l'espérance. Au début, il faisait appel à Dieu simplement pour une aide, pour une médiation, pour ne pas être abandonné, au fond. Il appelle à un conciliateur divin en général. Là, ça va beaucoup plus loin, hein, précisément. C'est l'annonce quand même de... C'est l'annonce, si vous voulez, au fond, du salut intégral. C'est-à-dire que ce qu'est en train de faire Job, c'est appeler un autre Dieu, au fond, que celui qui lui a donné sa réponse. Là, il appelle, au fond, il appelle à Dieu contre Dieu, on va dire ça. Ernst Bloch va dire la même chose. C'est un Dieu contre Dieu, c'est-à-dire c'est un Dieu qui devra être juge, avocat, en gros, accusé, etc. C'est un Dieu qui doit maintenant être capable de tous les postes, et précisément un Dieu qui doit réparer, au fond. C'est ça l'idée. Il faut un Dieu qui s'accuse lui-même et qui fournisse la réparation de sa création insatisfaisante, ou en tout cas impuissante, ou incapable, ou inachevée de manière générale. Or, ce messianisme, donc, il va faire appel, il fait appel à une autre temporalité. Il va falloir racheter des choses, il va falloir proposer un autre passé, il va falloir proposer un autre racheter le passé, il va falloir proposer un autre présent, et puis, précisément, ouvrir un autre futur, une autre espérance, en tout cas, ouvrir une autre temporalité. Alors, c'est là où j'en viens à l'idée de messianisme. L'idée de messianisme, telle que le vont penser, en tout cas, un certain nombre d'auteurs, c'est la prise en compte d'une nouvelle temporalité. On parle de messianisme quand il y a un autre rapport au temps qu'il faut installer. Ça veut dire aussi une autre existence, hein, une autre vie possible en général. Et donc, un triple messianisme quant au passé, au présent et à l'avenir. C'est donc les trois voies qu'on va voir ce soir autour de ça. première voie, donc, un messianisme du passé. Alors là, il y a deux auteurs qui nous intéressent. Max Horkheimer, qui est un philosophe dont je vous ai amené son texte, enfin sur lequel moi je vais me reposer, qui s'appelle Note critique, hein. Max Horkheimer, donc Note critique, 1949-1969, je crois qu'il vient de sortir en poche chez Rivage, mais je n'en suis pas sûr, donc à regarder en tout cas, Note critique de Max Horkheimer. Dans un autre texte que celui-là, un texte qui s'appelle Crépuscule, c'est des écrits qui sont écrits entre 1926 et 1931, dans une période très mouvementée en Allemagne. Voilà comment Max Horkheimer nous indique la tâche de l'historien. Au fond, comment il fait signe vers qu'est-ce que c'est qu'un historien et qu'est-ce que doit faire un historien. Je vous lis sa citation. « Quand on est au degré le plus bas, exposé à une éternité de tourments que vous infligent tant d'autres êtres humains, on nourrit comme un rêve de délivrance la pensée qu'un être viendra, qui se tiendra en pleine lumière et fera advenir pour vous la vérité et la justice. Vous n'avez même pas besoin que cela se produise de votre vivant, ni du vivant de ceux qui vous torturent à mort. Mais un jour, quel qu'il soit, tout sera néanmoins réparé. Les mensonges, la fausse image de vous qu'on divulgue dans le monde, sans que vous puissiez encore vous en défendre, doivent un jour disparaître devant la vérité. Et votre vie réelle, vos pensées et vos buts, de même que la souffrance et le tort qui vous seront causés à la fin, seront censés se révéler. Il est amer d'être méconnu et de mourir dans l'obscurité. Éclairer cette obscurité, tel est l'honneur de la recherche historique. » Alors, là, qu'est-ce qu'il nous dit, au fond? C'est un éloge de la rédemption en tant que remémoration du passé historique. Éloge de la rédemption comme, d'abord, remémoration du passé historique. Ça fait signe, bien sûr, vers le messianisme, c'est-à-dire vers le succès de la vérité et de la justice. C'est ça la tâche de l'historien. C'est ça la tâche de l'historiographe, hein, de celui qui doit faire une histoire. Une bonne histoire, c'est celle-là. Ou l'histoire intéressante, en tout cas, c'est celle-là pour Max Horkheimer. Alors, Walter Benjamin, qui était son ami, dans un échange de lettres à l'époque, lui dit « Je suis tout à fait d'accord sur ce que tu as écrit sur la tâche de l'historien. » Il pourrait s'appliquer à la littérature, il pourrait s'appliquer à un certain nombre, au fond, au travail du critique en général. Mais il rajoute quelques petites choses, Benjamin, dans cette œuvre de rédemption du passé. Il dit, voilà ce qu'il dit, dans une lettre qu'il écrit donc à Horkheimer, « Ce qui est arrivé aux êtres humains qui sont tombés, aucun avenir ne peut le réparer. Ils ne seront jamais appelés pour être rendus bienheureux pour l'éternité. » Un petit peu plus loin, il rajoute, « Au milieu de cette immense indifférence, seule la conscience humaine peut devenir le haut lieu où l'injustice subie peut être abolie, dépassée. » C'est le mot « Aufgehoben », hein, c'est le mot préféré de Hegel. « Où l'injustice subie peut être abolie, dépassée. » C'est la seule instance qui ne satisfait pas cela. « Maintenant que la foi dans l'éternité doit se décomposer, l'historiographie est le seul tribunal d'appel que l'humanité présente, elle-même passagère, peut offrir aux protestations qui viennent du passé. » L'idée est la même, en général, c'est-à-dire que l'injustice passée peut être abolie ou dépassée, au fond, grâce à la conscience historique, grâce à la conscience profane, au fond, hein, séculière, c'est-à-dire des hommes, grâce à une conscience qui est délivrée de toute métaphysique, c'est-à-dire sans Dieu. Hein. Il a dit, maintenant que la foi dans l'éternité doit se décomposer, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr qu'il y aura un jugement dernier, c'est l'histoire qui doit faire le boulot, maintenant. Dieu, il n'y aura peut-être plus de Messie, au fond, hein, il n'y aura peut-être plus de rédemption, etc., mais maintenant, c'est aux historiens à faire le travail, en général. Alors, Walter Benjamin, dans cette idée-là, et dans un texte ensuite toujours de discussion avec Horkheimer, va rajouter encore quelques idées, parce que ça va cesser de trotter derrière la tête, notamment dans un texte donc, qui s'appelle « Sur le concept d'histoire ». Ce sont des petites thèses, un texte très très court, très difficile à lire. Heureusement, on a un très beau commentaire de Michael Levy qui s'appelle donc, « Walter Benjamin, avertissement d'incendie », une lecture des thèses sur le concept d'histoire. Michael Levy voit très bien que dans ce qu'on appelle la deuxième thèse de ces textes-là. Je vous lis juste la deuxième thèse de Walter Benjamin. On va voir comment il va encore plus loin. Voilà ce que dit Benjamin. Le texte est un petit peu long, mais... Enfin, long, non, ça dépend, mais je vais aller vite. Thèse numéro 2, toujours des textes un petit peu énigmatiques, hein, vous allez voir. L'un des traits les plus surprenants de l'âme humaine, à côté de tant d'égoïsme dans le détail, est que le présent en général soit sans avis quant à son, sans envie quant à son avenir. Donc le présent est sans envie quant à son avenir. Cette réflexion de Lotz conduit à penser que notre image du bonheur est marquée tout entière par le temps, où nous a maintenant relégué le cours de notre propre existence. Le bonheur que nous pourrions envier ne concerne plus que l'air que nous avons respiré, les hommes auxquels nous aurions pu parler, les femmes qui auraient pu se donner à nous. Autrement dit, l'image du bonheur est inséparable de celle de la délivrance. Il en va de même de l'image du passé que l'histoire fait sienne. Le passé apporte avec lui un index secret qui le renvoie à la rédemption. N'est-ce pas autour de nous-mêmes que plane un peu de l'air respiré jadis par les défunts ? N'est-ce pas la voix de nos amis que hante parfois un écho des voix de ceux qui nous ont précédés sur terre ? Et la beauté des femmes d'un autre âge est-elle sans rassembler à celle de nos amis ? Ça doit être ressemblé. Il existe une entente tacite entre les générations passées et la nôtre. Sur terre, nous avons été attendus. À nous, comme à chaque génération précédente, fut accordée une faible force messianique sur laquelle le passé fait valoir une prétention. Cette prétention, il est juste de ne la point négliger. Quiconque professe le matérialisme historique en sait quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il vient de dire dans cette thèse un petit peu étrange, Walter Benjamin? Il dit, je suis d'accord avec l'idée que la conscience historique peut sauver les choses du passé, mais il faut rajouter deux dimensions, du coup. Première dimension, il faut rajouter une dimension théologique. C'est la petite phrase, il existe une entente tacite entre les générations passées et la nôtre, au fond. Ça veut dire quoi, au fond? Ça veut dire, oui, il y a remémoration historique des victimes du passé. Et par la même rédemption des choses, au fond, la souffrance n'est pas close. Elle est encore ouverte. Le travail de l'historien, c'est celui qui rouvre les souffrances, au fond, et qui montre qu'il n'y a pas solde de tout compte. Déjà ça. Il y aura délivrance à un moment donné. L'historien, il a pour but de délivrer les souffrances passées, précisément. Et surtout, ce que montre bien Benjamin, c'est que pour que cette rédemption ait lieu, il faut la réparation. La réparation, ça veut dire quoi? Surtout pour lui, l'accomplissement des objectifs pour lesquels ces générations victimes ont lutté. Donc il faut réaccomplir ce qui a été oublié autrefois, au fond. Ce qu'elles ont échoué à atteindre, échoué à réaliser, il faut les réaccomplir à l'œuvre actuelle, précisément. Au moment... Donc il y a, oui, rédemption, la conscience historique, mais surtout il faut réactiver, hein, leurs objectifs, ce qui était leur but, leurs objectifs, ce qui n'a pas pu s'accomplir en leur temps. Alors, je vais faire un petit aparté, mais on gardera cette idée-là, je vais y revenir tout à fait. Ici, c'est vraiment l'idée de la rédemption juive qui marche et pas du tout celle de la rédemption ou du messianisme chrétien. Pourquoi? Quelle est la petite différence entre les deux si on doit en faire une? Alors, celui qui nous a aidé un peu à réfléchir là-dessus, c'est un texte de Karl Levitt, je ne l'ai pas emmené ici, Histoire et salut. Karl Levitt est aussi un contemporain de Benjamin, Durkheimer et d'autres. Lui aussi a quitté l'Allemagne, il se retrouve au Japon ensuite, etc. Bon, c'est tout un cheminement. Karl Levitt nous dit très bien que la philosophie de l'histoire des modernes, c'est-à-dire l'idée qu'on y a, l'histoire a un sens, que l'on vise quelque chose, que l'on a un projet, etc., prend sa source dans le christianisme et le judaïsme. C'est-à-dire que nous ne sommes qu'une continuation sécularisée d'un dispositif qui était déjà là avec le christianisme et le judaïsme. Tous les deux, le christianisme et le judaïsme, avaient posé la question de l'accomplissement futur, des choses qui allaient s'accomplir, qui allaient venir, etc. Seulement, il y a une petite différence entre les deux. Ce que montre très bien Karl Levitt, c'est que du côté du christianisme, il n'y a pas de... Comment dire? Lorsque le Christ arrive, lorsqu'il est le Messie, au fond, n'est pas le début d'une nouvelle ère. Au contraire, c'est l'idée que l'histoire est close. Le Messie est arrivé, il a délivré son message, c'est le commencement de la fin de l'histoire, au fond. Il n'y aura pas d'autre Messie. Jésus-Christ est l'unique rédempteur, donc l'essentiel de l'histoire du salut est terminé dans le christianisme. Il n'y aura pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire possible qui peut naître de là. Vous savez, on l'avait vu avec Simone Veil ensemble, on l'avait vu avec d'autres acteurs, hein, précisément, le Christ a tout donné, donc la révélation est terminée. Dieu n'a plus rien à dire. Le Christ est là où Dieu s'est vidé, hein, c'est la kénose, hein, Dieu s'est vidé dans le Christ, etc. Le Christ est lui-même vidé du rang qu'il égale à Dieu, etc. Et donc, les temps eschatologiques ne sont pas des temps historiques. On ne rentre pas dans l'histoire. Ce n'est pas dans l'histoire qu'on va attendre des choses qui vont arriver. Au contraire, le temps du christianisme, c'est des temps contre l'histoire. Il n'y a pas d'idée que l'histoire va nous apporter quelque chose, en tout cas. C'est vrai que dans les premières sociétés chrétiennes, il y avait l'attente d'un deuxième Messie, hein, quelque chose de cet ordre-là, mais c'est l'idée qu'il... S'il y avait le paraclet, c'est ça l'idée d'un deuxième Messie qui arriverait, précisément, c'est qu'il était simplement là pour achever réellement le royaume qui était déjà installé avec lui. Donc, précisément, il n'y avait pas d'accomplissement futur. Ou alors, s'il y a un accomplissement futur, il est au-delà de la vie historique. Il est précisément dans un autre monde, ailleurs, etc. Ça ne veut pas dire que ce système-là, précisément, ce que voit bien Karl Levitt, c'est que cette explication-là, elle va se séculariser. Les gens vont croire qu'au fond, le Messie peut venir dans l'histoire, etc., à partir du christianisme, mais c'est une fausse traduction, au fond, de ce que ça pouvait être en général. L'idée que l'histoire a un sens, que des choses vont s'accomplir, on le voit bien, c'est... Dans le christianisme, ça n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas d'inquiétude. L'espérance est déjà là, il y a la foi qui soutient tout ça, etc. Quand vous sécularisez l'idée, ça ne peut être que dans une inquiétude permanente de l'histoire, dans un activisme inquiet qui désire transformer le monde, etc. Mais toujours en vue aussi d'une certaine apocalypse ou d'un futur, comment dire, d'un futur qui est indéfini, si on pouvait employer le mot de Condorcet, comme le progrès indéfini, hein, c'est un petit peu ça, un futur indéfini. Mais c'est l'idée, voilà, que quelque chose nous arriverait, bon, mais je crois qu'on en est loin, enfin, je laisse ça de côté. Et puis, il y a la voie judaïque. Il y a la voie donc chrétienne, il y a la voie judaïque. Celui qui va d'ailleurs mieux le définir et qui va aussi faire cette opposition entre christianisme et judaïsme, c'est Gershom Scholem, l'ami encore de Walter Benjamin, de Max Horkheimer, des gens qu'on a vus aujourd'hui. Voilà ce que dit Gershom Scholem, donc dans un petit texte, celui-là, qui s'appelle « Le messianisme juif », essai sur la spiritualité du judaïsme. Le messianisme juif, dans son premier texte, il nous dit très bien le messianisme, au fond, la rédemption chrétienne, voilà ce qu'il dit, c'est un événement qui se joue dans l'âme, dans l'univers personnel de l'individu, et qu'il appelle à une transformation intérieure, sans que cela modifie nécessairement le cours de l'histoire. Donc c'est plutôt la perfection personnelle, individuelle, qui se joue dans le christianisme. Alors qu'il nous dit, au contraire, pour le judaïsme, c'est un événement public, le messianisme, hein, enfin, c'est un événement public devant se produire sur la scène de l'histoire, au cœur de la communauté juive, et qui serait impensable sans cette manifestation extérieure. Donc on le voit bien, c'est dans le judaïsme qu'il y a l'idée que l'idée messianique se joue sur le plan de la conscience historique. Dans l'histoire, ça jouera en public. Ça fait signe vers la politique. L'un fait signe vers la morale intérieure, personnelle, je me perfectionne, je change ma vie, etc. Celle qui a peut-être gagné à l'heure actuelle. L'autre fait signe précisément vers la politique, vers le commun, vers le public, vers un certain nombre de choses. Donc il y a bien l'idée, en tout cas, d'un accomplissement possible à terme, sous forme disruptive, d'un surgissement, d'un événement, et au fond, presque, d'une transcendance, mais qui se ferait dans l'histoire, ou qui arriverait dans l'histoire. Qui reviendrait rompre le cours de l'histoire. C'est ça l'idée, aussi. Alors, vous voyez comment, d'ailleurs, cette idée-là, elle est anti-hégélienne, par exemple. Qu'est-ce que nous disait Hegel? Au fond, le réel est rationnel. Le réel est rationnel, ça veut dire que dans l'histoire, tout est rationnel. Au fond. Le malheur comme le bonheur. Le malheur, il a sa place dans tout ça. Ce n'est qu'une étape en vue d'un meilleur bonheur. On avait vu l'idée, etc. Donc, c'est l'idée d'une conciliation avec l'histoire universelle. Au fond, elle est rationnelle. Même si on n'en comprend pas toujours les malheurs, les souffrances, c'est rationnel. Évidemment, dans cette idée-là, pas du tout. Le Messie, c'est celui qui viendra interrompre le cours d'histoire, hein, dans l'idée du messianisme juif. C'est celui qui viendra en finir avec cette idée que l'histoire est rationnelle, ou qu'au contraire, tout n'est qu'un perfectionnement intellectuel, personnel, en général. Bon. Je reviens à Walter Benjamin, pour aller dans ce messianisme, en tout cas du passé. La rédemption, donc, en termes profanes, si on abandonne le terme religieux, parce qu'il y a, pour, précisément pour Walter Benjamin, une possibilité théologique, et puis, on avait vu, une possibilité, au fond, d'ordre politique. La rédemption, ça veut dire émancipation des opprimés. Au fond, c'est ça. Émancipation des opprimés, remémoration des souffrances, mais pas seulement remémoration des souffrances, hein, réparation des injustices passées, accomplissement de leur utopie sociale à ces opprimés. Face à la falsification ou à l'oubli des combats, de la pensée ou de l'histoire officielle en général, de ce qui menace aussi les morts, il s'agit de restituer à l'histoire sa dimension subversive, par exemple, de l'ordre établi. La vraie histoire, c'est celle qui subvertit au fond l'ordre établi, l'ordre traditionnel, la version officielle de l'histoire, c'est-à-dire seuls les gagnants, au fond, ont leur histoire, les perdants, peu importe. Je crois qu'ici, on vous a habitué à l'université populaire, à ce type de réflexion, en tout cas, à ce type d'historiographie. Je vois Lilian qui a fait des choses sur la condition de la prostitution, sur d'autres cours sur les canuts, Daniel Colson sur la tradition anarchiste, etc. Sophie Vanisch sur la Révolution française, enfin sur des moments où précisément l'histoire ne se fait pas, les opprimés, les perdants, ceux qui ont subi l'injustice et la souffrance, il faut, c'est d'eux au fond dont il faut parler, plutôt que les gagnants, parce que les gagnants, eux, généralement, ils nous donnent leur version, et elle est toujours omnipuissante, parce qu'elle bénéficie de beaucoup de choses pour pouvoir parler d'elle en général. Là où c'est plus intéressant, précisément, avec Walter Benjamin, c'est qu'il nous dit, au fond, il n'y aura pas de Messie envoyé par le ciel. Au fond. On n'a pas à attendre un Messie quelconque, ni dans le judaïsme, ni ailleurs, etc. C'est nous-mêmes qui sommes le Messie. C'est nous-mêmes qui sommes le Messie, c'est au fond ce que dit Job, au fond, il n'y a pas à attendre une réponse de Dieu. Le Messie, c'est chacun d'entre nous. Chaque génération, hein, tout à l'heure on l'a lu, possède une parcelle du pouvoir messianique que nous devons exercer. Au fond, Dieu est absent. C'est ça aussi ce que nous donne le livre de Job. Le seul Messie possible, il est collectif. C'est l'humanité, surtout opprimée. Il ne faut pas attendre, il faut donc agir collectivement. Le passé est exigeant. Et il ne s'agit pas, comme dans la Kabbale juive, il le dit, il ne s'agit pas de calculer quand va arriver le Messie, à quel moment, etc. Au contraire, il ne s'agit pas non plus de coopérer avec Dieu, comme le fait Martin Buber, par exemple, en tout cas s'il propose, mais non, il faut précisément y aller. Pourquoi? Parce qu'en plus, rien n'est assuré. C'est pas sûr que tout ce travail ne serve à grand-chose, qu'il fasse place face à des choses, parce que les opprimés, en plus, sont toujours les plus faibles, donc généralement, ils ne gagnent pas la partie. Mais l'historiographie s'oriente vers le passé, mais aussi vers le présent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un travail de contemplation du passé, en disant « Oh, regardez comme c'était bien, ce qu'ils ont fait, etc. » mais aussi d'action. La rédemption est aussi une tâche révolutionnaire. On est attendu sur Terre, comme il le dit, pour continuer et achever le combat émancipateur. C'est ça le but de tout le travail, de la critique en général, sociale, historiographique, philosophique et autres. On a donc l'idée ici d'une continuité entre le temps présent et l'essence messianique. On le voit bien. Je note que d'ailleurs, il y a une toute petite différence, là, vous voyez, entre Marx par exemple, et quelqu'un comme Walter Benjamin, autant Marx, il pense que tout va passer par la violence, par la violence accoucheuse de l'histoire, une discontinuité, etc. Autant pour Walter Benjamin, tout est continu. Le passé joue dans le présent et le présent rejoue le passé en manière permanente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contre Hans Jonas ou contre le principe aussi, qui viendra plus tard, le principe responsabilité, la question c'est pas, il ne faut pas combattre pour les générations à venir, l'enjeu c'est pas pour les générations à venir ici. Non, c'est pour les générations du passé et pour les générations du présent. La question politique c'est pas, au fond, quel avenir pour nos enfants, pour Walter Benjamin, c'est pas les bonnes questions pour lui. La vraie question c'est, il faut prévoir le passé qui guette. Qu'est-ce qui est susceptible de revenir? Et précisément, il faut se poser cette question. Qu'est-ce qui est sur le point de revenir? Donc, précisément, c'est le travail aussi de Walter Benjamin. Il faut se faire chroniqueur. Il faut sauver les détails de l'histoire, parce que Dieu est aussi dans les détails. Il faut narrer le grand comme le petit. Tout doit être sauvé de l'oubli, ou une grosse partie, en tout cas, des choses les plus importantes. Il faut sauver les âmes qui ont été perdues, en général. C'est le travail de l'historien, du narrateur, du traducteur, du critique, bref, d'un certain nombre de choses, etc. Il faut faire du nouveau avec des éléments qui sont venus ou trop tôt ou trop tard, et il faut en faire du nouveau avec. On n'a pas tout à fait l'idée de progrès, mais on a l'idée en tout cas de renaissance de manière permanente. Alors le problème de Walter Benjamin, c'est qu'il restait pessimiste. De toute façon, en disant, c'est pas gagné, on n'arrivera pas à sauver... ce qui a été perdu. Il aimait bien cette phrase de Kafka. Kafka disait « Beaucoup d'espoir pour Dieu, une infinité d'espoir, mais pas pour nous. » Donc il y a l'idée qu'on pourrait sauver, mais au fond, pour nous, il y avait peu d'espoir. Mais quand même, il y a l'idée qu'il faut rouvrir des portes en permanence, faire ressurgir les étincelles, les petites lumières qui clignotent encore pour essayer de revoir ça. Deuxième voie, donc soit un messianisme du passé, on le voit bien, qui vise à sauver au fond ce qui peut être sauvé du passé et des forces qui sont là, plutôt un messianisme du présent. Alors le messianisme du présent, je crois qu'il est omniprésent dans une pensée politique actuelle, plutôt de gauche, on va dire, mais je vais essayer de le décliner assez rapidement, pour pas trop m'apesantir là-dessus, mais qui me semble en tout cas très intéressante. C'est les auteurs qui sont peut-être les plus intéressants aujourd'hui, et je crois que tous appartiennent un peu à cette idée-là. Alors celui qui s'appuie sur Job pour réactiver ça, c'est le livre d'Antonio Negri, donc de Tony Negri, Job, la force de l'esclave, on en avait parlé un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il voit, outre déjà tout ce qu'on a vu ensemble, en tout cas certaines choses? Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'ascèse de Job, ce côté ascétique, sa discipline qu'il se donne, la façon de ne jamais céder sur ses désirs, on va dire, si on reprend le terme deleuzien en général. Pour lui, il le dit bien, Job, c'est la théorie de la vision, à l'intérieur du désir. C'est-à-dire, c'est un désir, Job, un désir de Dieu qui contient son objet. Dans le désir, il y a l'objet. « Mon Dieu, je t'ai vu et je te possède. » C'est cet immense désir. Et pour ça, il le dit, il a fallu la souffrance, l'excès, la démesure pour posséder l'objet de son désir, dans sa tension. Job construit toujours l'objet de son désir, jusqu'au bout. Il veut voir Dieu. Il veut la réponse au pourquoi de sa souffrance, en général. Et malgré tout, il croit encore. Il y croit toujours, même jusqu'au bout, au fond. C'est là où peut-être il y a toujours un intérêt à aller voir la religion, et c'est très étonnant chez Tony Negri précisément, c'est que dans la religion, il y a toujours comment, au fond, il le dit, comment un objet du désir, au fond, peut être construit, peut être généralisé. Comment, c'est dans la religion qu'on voit cet objet du désir de Dieu, etc. Job va reconnaître à nouveau Dieu parce que précisément il va l'entendre et il va le voir. Précisément. Il offre une vision, au fond, de son désir, en général. C'est ça le Messie, c'est cette ascèse, au fond, hein, ce mouvement permanent, cette discipline, cette construction intériorisée de l'objet. C'est le contraire, bien sûr, du mysticisme. Le mysticisme, au contraire, hein, il est dans l'éloignement de l'objet, dans une théologie négative, etc. Là, on a tout à fait le contraire. L'ascèse, c'est quoi? C'est donc l'acte constituant. Pourquoi j'emploie ce mot-là? Parce que Tony Aigri a fait un très beau livre, hein, sur cette idée de pouvoir constituant, pouvoir instituant, celui qui institue les choses, hein, précisément. C'est là qu'est la force, c'est là où on a une transformation des sens, de l'imagination, du corps, de la raison, pour quelque chose que l'on désire, précisément. Tony Aigri dit, en termes politiques, c'est le commun. Ce que veut, c'est quelque chose de commun à tous. Job, il veut quelque chose de commun à tous, c'est Dieu. Dieu, c'est le commun. Évidemment, dans un terme politique, c'est la communauté. On veut la communauté parce qu'elle n'est pas là. Il faut instituer la communauté. C'est à chacun d'entre nous de l'instituer. Par ascèse, par travail, enfin, c'est ça l'idée de Tony Aigri, au fond. Job ne veut peut-être pas la justice, mais en tout cas, il veut montrer aussi que la toute-puissance de Dieu est peut-être amorale ou immorale, qu'elle est despotique, qu'elle impose la raison du plus fort. Et précisément Job, c'est celui qui se lève contre cette puissance, contre la puissance démesurée ou d'un Dieu démesuré, contre une puissance démesurée. Job, c'est donc celui aussi qui attaque la foi, qui attaque l'espérance. Peut-être que c'est là son péché, le péché d'orgueil, hein, en tout cas d'aller plus loin que ça, mais en tout cas c'est ça. Alors, ce qui est intéressant, et là je vais vite, dans cette l'idée de pouvoir instituer, de son désir en général, c'est l'idée que c'est violent, qu'il faut opposer une violence, la violence de son désir, à la violence plus importante. Alors là, il y a un texte, en tout cas il y a un texte tout à fait étonnant, qui peut nous aider à réfléchir là-dessus, qui à mon avis est un texte absolument fondamental pour comprendre aujourd'hui la pensée politique. C'est un texte de Walter Benjamin aussi, qui date de 1921, donc un texte de jeunesse, d'extrême jeunesse même, qui s'appelle « Critique de la violence ». Je vais essayer de vous résumer ce texte pour voir comment aujourd'hui on peut le décliner de manière différente, comment il appartient aussi, Tony Aigri le cite, d'autres gens, mais sans s'y appesantir, je crois qu'on peut le travailler. C'est un texte extrêmement difficile, je ne pense même pas, moi, personnellement, après avoir passé beaucoup d'heures, l'avoir tout à fait maîtrisé encore, parce qu'il a beaucoup de données générales, mais je vais essayer, en tout cas, d'en définir une partie. Dans ce texte qui s'appelle « Critique de la violence », donc de 1921, Walter Benjamin nous dit qu'il y a deux types de violence. On peut définir deux types de violence, et lui, il va essayer de réfléchir sur ce qu'il appelle la violence pure. Qu'est-ce que c'est qu'une violence pure, ou de manière générale? Dans sa thèse, qui vient d'ailleurs de ressortir en poche il n'y a pas très longtemps, sa thèse sur le drame baroque, dans un petit texte qui s'appelle dans un chapitre qui s'appelle Destin et caractère, Walter Benjamin nous disait le destin des dieux, le destin, c'est la violence des dieux. Quand quelqu'un reçoit le destin, on dit « Ah, c'est le destin, c'est la violence des dieux », c'était ça. Maintenant, il dit « Cette violence des dieux, dans le monde moderne, elle n'existe plus, mais elle a une autre forme, c'est la violence de l'État. La violence d'État, c'est le destin. C'est ce qui peut vous tomber, à un moment donné, sur la tête, de manière très rapide. C'est la violence... En tout cas, ce qu'on va dire, la violence conservatrice du droit. Et donc, à ce moment-là, il va opposer cette violence conservatrice du droit, violence de l'État, à la violence fondatrice. Et je vais juste m'intéresser à ces deux données, violence conservatrice du droit et violence fondatrice. La violence fondatrice, c'est celle qui est au début, au fond. Vous avez aussi un très beau texte de Claude Gauthier, hein, là-dessus, sur le désobéissance, un texte sur Hume, qui est absolument, je trouve, un très grand texte, où Claude nous montre très bien que chez Hume, il y a l'idée qu'il n'y a pas un État qui n'est pas né de la violence. C'est-à-dire que tous les États sont nés sur la violence. sur une usurpation à un moment donné, un coup d'État, une conjuration, tout ce qu'on veut. Il y a bien quelqu'un à un moment donné qui prend le pouvoir contre quelqu'un d'autre, et puis avec le temps, il finit par se légitimer, et puis c'est bon, ça rentre dans l'ordre des choses, il crée un État de droit, etc. C'est ça la violence fondatrice. Il n'y a pas de politique sans violence fondatrice au départ. Si on faisait toute l'histoire, précisément, on verrait qu'il y a une violence fondatrice. Donc la violence fondatrice, c'est une violence contre un ordre qui préexiste, et elle est là pour sanctionner une prise de pouvoir. La prise de pouvoir est toujours violente. Ça n'existe pas, une prise de révolution de palais, ça n'existe pas en tant que telle. Après la violence fondatrice, suit forcément la violence conservatrice du droit. C'est-à-dire cette violence, elle veut conserver le pouvoir, donc elle va s'installer dans le droit. Elle veut perpétuer un état de droit préexistant, précisément. Donc ça veut dire que le droit implique nécessairement la violence comme moyen, au départ. Il l'implique au départ, lorsqu'on fonde, et ensuite pour conserver. Le droit est violent, au fond, où il est basé sur la violence. Le droit implique donc nécessairement la violence comme moyen. Il ne s'oppose pas à la violence, il monopolise la violence, dans tous les cas de figure. C'est ça l'idée. La légitimité de l'État, c'est la possibilité d'user toujours de la violence physique pour asseoir son pouvoir. S'il est attaqué, soit à l'interne, soit à l'externe, il peut mobiliser les forces de police, forces militaires, tout ce qu'on veut, etc., pour asseoir son pouvoir. Et donc l'individu est toujours exposé à l'excès de pouvoir. Évidemment, dans les moments totalitaires, c'est encore pire que dans les moments démocratiques, on voit bien, mais en tout cas, on est toujours exposé à l'excès de pouvoir. Et l'utilisation de la violence, c'est toujours le moment où l'état de droit montre sa limite. C'est-à-dire que c'est là où elle montre à la fois sa force, mais sa faiblesse aussi, sur la fragilité sur laquelle il est posé. Cette violence qui est la sienne. Donc la sphère juridique est, comment dire, c'est un concept limite, elle est étrangère à la justice aussi, en tant que telle, si on veut bien comprendre. Donc la violence, toujours, c'est ce qui dépose le droit, c'est ce qui met le droit, qui le fait vaciller, au fond, ce qui inaugure à chaque fois une nouvelle époque historique. Là où, précisément, Benjamin est intéressant, c'est qu'il dit il y a possibilité aussi d'une violence pure. Il y a une troisième forme de violence. Oui, il y a la violence fondatrice, oui, il y a la violence conservatrice du droit, mais il y a la possibilité d'une violence pure. Et au fond, il est là, le messianisme politique. Il est dans cette violence pure. Qu'est-ce que c'est que la violence pure, du coup, cette troisième forme de violence? C'est une violence, mais qui n'est pas un moyen en vue d'une fin. C'est pas un moyen en vue d'une fin. La violence fondatrice, c'était un moyen en vue d'une fin. Elle voulait instaurer, prendre le pouvoir, occuper le pouvoir, tout ce qu'on veut, etc. Dans la violence pure, peu importe les fins. Au fond. La violence pure, elle n'a plus de rapport avec le droit. Et l'enjeu, c'est pas le prise de pouvoir, c'est pas tout ça. C'est la possibilité de casser l'ordre. La possibilité de remettre en cause l'ordre pour ce qu'il est. Il n'est qu'un ordre basé sur la violence, même si une violence légitimée ensuite par un certain nombre de choses. La violence pure, elle remet en cause ce qu'on peut appeler l'institution symbolique du social, au fond. Vous savez, ce qu'on voit chez Lefort, chez Castoriadis, etc., l'idée d'institution symbolique du social, tout serait institué, il y aurait une institution symbolique du social. Déjà chez Walter Benjamin, il y a cette idée que ça peut être rompu par une violence pure, précisément. Autrefois, c'était la pure violence divine, à la rigueur, cette violence pure. Maintenant, précisément, c'est l'idée révolutionnaire. En tout cas, une forme de la violence pure révolutionnaire. Pour Walter Benjamin, à son époque, c'est la grève générale prolétarienne, lui son imaginaire. Précisément, nous, aujourd'hui, il y a d'autres définitions. Par exemple, chez Jacques Rancière, l'idée rupture de l'ordre, de rupture de la police pour des moments démocratiques rares. On le voit bien. Chez Alain Brossat, l'idée plébéienne. La plèbe, c'est ce qui vient bousculer aussi l'ordre établi, quel qu'il soit, qui vient reconfigurer l'espace de la discussion, mais qui ne vise pas non plus la prise de pouvoir, mais qui vient simplement émettre un tort, une injustice à un moment donné pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne cherche pas forcément le pouvoir en général. Et puis c'est la multitude aussi de Tony Negri et d'autres. Sous la multitude, il y a aussi cette idée de remettre en cause de manière permanente un état des choses sans forcément vouloir le pouvoir, sans forcément vouloir tout changer, mais il y a l'idée de discipline, de résistance à des choses. Je crois qu'on pourrait le voir chez Badiou, je crois qu'on pourrait le voir aussi dans certains textes, dans l'idée du peuple, par exemple chez Daniel Ben Saïd, etc. Je ne vais pas accorder trop de temps à ça, mais il me semble que dans une très forte majorité de la pensée aujourd'hui, plutôt de gauche politique, la plus intéressante, il y a cette idée, en tout cas, qu'il faudrait. C'est aussi le thème très fort, mais il faudrait faire des différences, hein, parce qu'on ne peut pas tous les mettre dans le sac, mais en tout cas, il y a cette idée-là. C'est le thème aussi de ces textes, la commune du succès, hein, coupable, tout coupable, etc., de l'insurrection qui vient. Il y a quelque chose à venir. Et ce qui vient, c'est ce qui va faire événement. Ce qui forcément ne peut se définir comme sous les formes de la violence pure. Ça ne veut pas dire violence qui est sanguinaire, etc., mais ça veut dire reconfiguration, idée en tout cas d'autre chose. C'est-à-dire détruire ou anéantir les formes de la violence propres au droit, propres à la puissance étatique, lorsqu'elle précisément use de sa violence pour se conserver sans évidemment prendre attention à ceux sur qui elle s'oppose en général. Donc on a bien l'idée d'une interruption radicale au sein même de l'histoire, une interruption singulière d'une situation avec ça. Seule cette violence peut en tout cas contrer la violence de l'État ou de l'ordre tel qu'il se diffuse en général. Ça veut dire que ce n'est pas aller contre l'idée de gouvernement en général. Le gouvernement est souvent un peu nécessaire dans certaines choses, mais c'est aller à l'encontre des pulsions de domination ou des pulsions évidemment de subordination qui se jouent dans une société et lui opposer précisément une résistance permanente. On le voit bien, hein. La lutte est ici distincte de tout enjeu de pouvoir. Il ne s'agit pas de surmonter l'arbitraire, mais il s'agit de supprimer cet arbitraire tel qu'il se définit de temps en temps. Troisième et dernière forme de messianisme, et on va terminer là-dessus ce soir. Alors, là, je vais emprunter qu'un seul auteur, parce qu'il me semble un auteur absolument passionnant, pas assez connu, en tout cas difficile dans certains cas, mais je pense qu'il faut absolument redécouvrir. J'en avais déjà parlé un peu dans le cours aussi que j'avais fait avec Philippe sur l'utopie, c'est Ernst Bloch. Mais depuis, j'ai encore retravaillé de multiples manières cet auteur-là. Ernst Bloch, c'est surtout l'écrivain des trois gros tomes du Principe Espérance. Gros texte, très un peu pénible à lire, c'est vrai, mais des textes ô combien fantastiques. C'est l'écrivain de l'esprit d'utopie, et puis d'un petit texte sur lequel on va s'attarder un peu ce soir davantage, qui est l'athéisme dans le christianisme, et qui est consacré à Job aussi, en partie, pas seulement, mais dans une grande partie de sa réflexion. Ernst Bloch, aussi un auteur donc important. Je dois avoir ces dates quelque part. Si je les retrouve, je vous les donne, mais sinon, je les mettrai. Oui, 1885-1977, Ernst Bloch. Alors, un petit mot sur Ernst Bloch, peut-être, en tout cas pour voir comment on en arrive à la pensée de Job, mais vous allez voir que tout tient sur lui. Je vais essayer de voir ce qu'il y a de plus important dans son texte. Pourquoi étudier Ernst Bloch? Parce qu'il me semble que c'est un philosophe, en tout cas, qui a su résister à une certaine montée de l'irrationnel, voire même du romantisme. Parce que, par exemple, je pense que quelqu'un comme Walter Benjamin n'y résiste pas beaucoup. Qui définit un marxisme qui me semble très intelligent, peut-être plus intelligent que celui d'Adorno ou d'Horkheimer, une pensée juive, mais qui utilise beaucoup du christianisme, et donc il me semble aussi de temps en temps contrer un peu l'unilatéralisme de Gershom Scholem. Bref, c'est pour ça que c'est quelqu'un qui me semble tout à fait original, et en tout cas qui mérite qu'on termine en tout cas le cours sur lui. Alors, Ernst Bloch, dans son premier texte tout de suite de 1918, il est assez jeune lorsqu'il écrit ce texte-là, il s'intéresse à ce qu'il appelle le topos de l'inconnu, c'est-à-dire l'inconnu qui se loge dans le futur. Qu'est-ce que c'est que l'inconnu qui se loge dans le futur? On voit qu'il y a une difficulté, mais au fond, il dit il y a une disponibilité à un futur attendu, un futur qui soit ou anticipé ou souhaité, et c'est ça qui est le plus important. C'est ce qu'il va appeler le messianisme utopique, au fond. Et il dit c'est simplement ce messianisme utopique qui va nous permettre de lutter contre le nihilisme ambiant, à son époque, le nazisme, là en 1918, la Première Guerre mondiale, les nationalismes ambiants, le colonialisme, etc., et ce qui va venir après. Et puis toute cette montée de l'irrationalisme qu'il voit chez tous les auteurs, même à l'époque Thomas Mann, même s'il va changer ensuite, mais qu'il voit chez tous les lecteurs de Hegel, de Nietzsche, de Heidegger, etc. Il y a un grand critique. Et évidemment, il va lutter aussi contre Freud, contre Jung, contre un certain nombre d'auteurs qui lui semblent aussi typiques de cet irrationalisme ambiant, même quand il lutte pour un certain nombre de choses. Alors, pour bien comprendre Ernst Bloch, il faut partir d'abord de son ontologie. Ontologie, c'est l'idée qu'il a de l'être, en général, hein, de la science, d'une science de l'être, en tout cas, comment il pense l'être. Il a une ontologie qu'il appelle le non-encore-être. Il parle de son ontologie du non-encore-être, de ce qui n'est pas encore, on va dire, enfin voilà, quelque chose comme ça, du non-encore-être. Je suis désolé, c'est des termes des fois un peu techniques, mais on va voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que Bloch est un matérialiste conséquent, il vient d'Aristote, etc. Il dit, pour comprendre la matière, elle est d'abord dynamique. C'est-à-dire, c'est une dynamique, et donc c'est une potentialité, la matière. Et elle est pleine de puissance. Les choses sont pleines de puissance. Les choses sont pleines de possibilités qui ne sont pas encore déterminées. Mais les êtres humains aussi. Donc tout est puissance, tout est processualité en permanence, ça bouge, etc. Tout devient possible. Et au fond, les choses ne sont pas encore accomplies. Elles sont toujours perfectibles, de manière à s'accomplir en général. Et évidemment, le monde attend de nous des réponses en permanente, qu'on active certaines choses, qu'on fasse certaines choses. Alors, au niveau de l'être, ça se voit très bien au niveau, par exemple, de la faim. Il pense que lui, la première pulsion importante chez l'homme, c'est la faim. La faim, c'est quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui est là. On a faim, on veut manger, on veut voir arriver les choses. On pense à ce qu'on va manger. Il est 20h, on commence à la voir, on est dans cet état indéterminé, c'est l'avoir et le non-avoir encore. Bon, enfin, bref, on est là. Il y a un manque à la base, et c'est ça, au fond, pour donner une image. Mais ça veut dire aussi que l'homme, en général, il n'est pas encore ce qu'il pourrait être. Au fond, en général, le monde n'est pas encore authentique. Alors, bien sûr, les possibilités sont restreintes, on ne peut pas être tout dans la vie. La possibilité, c'est toujours une détermination partielle. Elles peuvent ne pas se manifester. Quelqu'un ne peut pas un jour mettre en place ses possibilités, ce qui est toujours évidemment dommage. Mais le monde, le meilleur, le monde, c'est celui qui permettrait à chacun d'épanouir ses possibilités précises dans le monde en général. Et on voit très bien que chez Ernst Bloch, il n'y a pas de pessimisme, mais qu'au contraire, il y a un optimisme militant. Un jour, on pourrait se réconcilier avec le monde, en tout cas, on pourrait transformer le monde, les choses pourraient se définir en général. Donc, on a l'idée que le monde est une possibilité en avant. Vous voyez, c'est le contraire, par exemple, de Heidegger à l'époque. Pour Heidegger, la chose, c'est un être vers la mort, plutôt. Là, au contraire, c'est nous sommes des êtres de possibilité, et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est aléatoire, bien sûr, mais on n'est pas non plus dans la subjectivité des existentialistes à l'époque. Hein. L'individu est angoissé, craintif, c'est ça l'individu hein, de Sartre, etc. Bon, là, au contraire, on met les possibilités en avant, en général. Évidemment, l'enjeu, c'est la temporalité, c'est le temps. C'est notre rapport au temps. Donc le temps, c'est plus la projection de l'être vers sa fin. Non, le temps, c'est d'abord l'idée d'accomplissement, d'actualisation de l'inachevé, de ce qui n'a pas été achevé. Bloch, contrairement à Benjamin, il est pour l'idée du progrès. Le progrès, c'est bien. Mais il y a deux types de progrès, parce qu'il y a deux types de temps. Soit il y a le temps de la montre, progression régulière, mécanique, abstraite, celle du temps de travail, il n'est pas très intéressant celui-là. Soit il y a le temps tendanciel, c'est celui-là qui nous intéresse le plus, auquel il faut être attentif. Le temps élastique, variable. Le temps, comme il disait, le temps n'est temps que par le fait que quelque chose se passe. Il y a du temps quand il se passe quelque chose, quand il y a de l'événement, au fond. La nature du temps, c'est son événementialité, on va dire. Donc c'est un temps qualitatif, c'est le temps messianique, il est là. Quand il se passe quelque chose, c'est du Messie. C'est le temps comme devenir divin, bien sûr, du judaïsme. C'est le temps kairos, c'est le temps où il se passe des choses, où il y a des opportunités, où il y a des occasions. Et c'est donc l'idée que le progrès, il n'est pas unilinéaire. Le progrès, il est fait de plein de temps enchevêtrés en eux, etc. C'est un temps en fermentation. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, des fois, ça se diffuse pas, etc., en général. Comme il disait, le progrès, il avait une métaphore musicale, c'est un grand musicien, Ernst Bloch, il dit « contrepoint enchevêtré de diverses voix qui se font entendre dans l'histoire ». Donc dans un progrès, il y a plusieurs sons, il y a plein de choses qui se passent à des moments donnés, et c'est ça qu'il faut lire. Il faut savoir où ça se trouve, au fond. Parce que ça a lieu maintenant, déjà. Pour le dire autrement, auprès de nous, il y a plein de latences. Il y a plein de choses qui... dans plein de choses que nous ne voyons pas. Les choses ont l'air obscures et pourtant, il y a déjà de la lumière qui arrive en général. Mais on ne le voit pas. Et donc, il faut voir comment le passé, mais aussi, surtout, comment le futur traverse déjà notre temps présent. C'est ça, le messianisme du futur. C'est voir qu'est-ce qu'il y a déjà de futur dans le temps présent. Non pas ce qu'il y a de passé, comme Walter Benjamin, mais ce qu'il y a déjà de présent, de futur dans le présent. C'est pour ça que la partie de la psychique la plus importante pour lui, sur laquelle il fallait travailler, s'appesantir, c'est le préconscient, et pas l'inconscient. Là, je vais aller vite. Ernst Bloch, c'est une grande, attaque de Freud, mais surtout de Jung, plus intelligente que le dernier bouquin d'Onfray. Bon, il n'a pas lu Bloch, c'est dommage, il aurait trouvé des choses un peu plus nouvelles que la répétition actuelle du livre noir de la psychanalyse, etc., de toutes les petites histoires qui ne sont pas très intéressantes. Chez Bloch, c'est plus intéressant. Pourquoi il nous dit ? Parce qu'au fond, chez Freud et Jung, c'est bien, il aime bien Freud. Il aime beaucoup moins Jung et tous ceux qui vont être autour de lui, etc., parce qu'il dit, au fond, ces gens-là n'ont cessé de croire que tout était dans le passé. Que les pulsions premières, c'était la libido, alors qu'il y a d'autres pulsions. Il le dit d'ailleurs. Pulsion de la faim, justement, elle est là avant tout. Pulsion du souci du travail, du souci de l'avenir. Pulsion, c'est ça qui travaille les gens. Et ce n'est pas forcément leur sexualité permanente. Il a fait attention à des pulsions alors qu'il y en avait d'autres, bon, par exemple. Mais surtout, l'idée que tout était dans le passé, qu'il fallait aller dans le passé, dans l'enfance. Bref, pour lui, dans ce qui était forcément irrationnel. L'inconscient, c'est ce qui est irrationnel. Donner autant d'importance à l'irrationnel dans sa vie ou à l'inconscient, c'est louper sa vie, en tout cas. Je caricature un petit peu, c'est plus fin. Je peux vous renvoyer à d'autres articles, en tout cas à d'autres choses là-dessus. Mais bon, la psychanalyse n'est faite que de régression. La preuve, elle s'occupe des rêves nocturnes. Le rêve nocturne, c'est sombre, on ne sait pas, etc. Lui, il préfère le préconscient. Le préconscient, c'est le rêve de jour, le rêve diurne, le rêve du jour. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui rêve ? Quelqu'un qui rêve, c'est... quelqu'un qui accompagne toujours son rêve d'un souhait, c'est-à-dire d'un but, de quelque chose qu'il voudrait, au fond. Et généralement, ce souhait, c'est toujours la représentation de quelque chose de meilleur pour lui ou pour les autres, etc. Cette représentation, elle se change ensuite en image souhait en général. Contrairement donc à Jung, par exemple, il l'appelle le fasciste écumant, précisément, bon. C'est vrai que Jung, pour le coup, a été aussi s'est engagé un petit peu bizarrement. Il est contre la psychologie des profondeurs, bon, etc., la nuit des symboles, enfin bon, je laisse. L'inconscient collectif, pour lui, c'est ce qu'il y a de pire, ça n'existe pas, ça n'a pas de sens, l'inconscient collectif. Il dit l'inconscient de Jung est universel, préhistorique et collectif, etc. Il dit ça précisément, ça se rapproche plus de la religion que d'autres choses. Bon, pour lui, en tout cas, ça ne l'intéresse pas beaucoup. Non, le préconscient, c'est ce qui vise le nouveau. C'est ce qui vise à inventer quelque chose d'autre. Et où il le voit, le préconscient, où est-ce que ça se met en place? Précisément dans les rêves éveillés de tout un chacun, qui a là de l'utopie en permanence, en général. Bien des rêves éveillés, animés, ont pris la réalité à bras le corps et l'ont remodelé pour lui arracher son consentement. Et les idées qu'il produit ne demandent pas à être interprétées, mais mises en pratique, précisément. C'est ça la force du rêve éveillé. L'éveillé veut améliorer ouvertement les conditions de vie humaine, alors qu'au contraire, celui qui dort avec ses trésors, c'est un moi introverti, il va raconter ça à son psychanalyste, etc. Bon, bref, ça ne sera pas très intéressant. Alors qu'au contraire, le rêve éveillé a plus à nous dire en général, il nous ouvre plus là-dessus, plus de choses. Et évidemment, là où il se trouve, c'est dans l'art, dans les artistes. Et dans un art un petit peu plus particulier pour lui, dans la musique. La musique, c'est toujours en avance. C'est ce qui dit toujours ce qui va venir, précisément. C'est là qu'est l'utopie. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi de l'art, parce que l'art, précisément, c'est une utopie concrète. C'est-à-dire que ce sont des médiations culturelles, si on veut, etc. En tout cas, c'est ça. Et le génie, c'est celui qui a la capacité de prendre conscience de ce préconscient, ou de ce non-encore conscient qui est en lui. Alors, il a l'idée d'artiste comme génie, au fond, mais c'est celui qui annonce un monde autre que le nôtre, toujours. Et il faut donc écouter les musiques du moment, des compositeurs, des créateurs du moment, etc. C'est là qu'on aura l'idée, en tout cas, d'un certain vitalisme bien plus fort, en tout cas, chez nous. Il y a anticipation, il y a expressivité en général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fait pas de sociologie de l'art. Au fond, Bloch, c'est celui qui déteste la sociologie de l'art. On n'explique pas un artiste par en quoi il est le reflet du moment, en quoi il est le mimétisme des forces sociales qui s'opposent sur lui. Pour ça, ce n'est pas intéressant pour lui. Non, un artiste, c'est celui précisément qui est au-dessus, qui voit plus loin. La grande musique n'est pas non plus en retard ou en avance, mais elle prévoit, elle rend audible le futur. C'est ça l'idée. Il y a latence d'un autre monde à venir dans les œuvres d'art que ne voient pas les contemporains. Évidemment, Ernst Bloch, c'est l'ami aussi de Walter Benjamin, et c'est ça pour lui aussi, à la rigueur, une œuvre générale ou une grande œuvre, ou au fond, une œuvre classique, un classique. Qu'est-ce que c'est qu'un classique pour Ernst Bloch? C'est celle qui comporte de l'utopie, mais qu'on n'a pas encore vue. Il y a de l'utopie dans Beethoven, il y a de l'utopie dans Brahms, dans Bartok, etc., tout ce qu'on veut, mais on ne l'a pas encore lu, on ne l'a pas encore entendu, on ne l'a pas encore vu, on ne l'a pas encore vu dans les peintres, dans la poésie, dans la littérature. C'est pour ça qu'il faut relire à chaque fois les classiques. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles lectures qui, des fois, apportent de nouvelles vues. On l'a vu avec René Girard, on l'a peut-être vu avec tous ceux qui lisent Job. Ils ont vu encore des utopies ou des formes d'être qui peuvent nous permettre de penser en général. Il reste de l'obscur dans un certain nombre de choses, du non encore devenu, mais toute œuvre d'art a un excédent. Et il y a des traces de cette utopie. Et il faut les lire dans les luttes. Lutte du passé, lutte du présent, évidemment, lutte à venir, parce qu'elles sont déjà dessinées dedans, en général. Donc les grandes œuvres ont quelque chose de nouveau à communiquer à chaque époque, quelque chose qui avait échappé à l'époque précédente. C'est pour ça qu'elles ont une éternelle jeunesse, au fond. Dernier point chez Ernst Bloch, et je finis là-dessus pour ce soir, c'est précisément pourquoi aller voir en général Job et qu'est-ce qu'il retrouve dans Job ici. Précisément, il retrouve dans Job la force morale de Job, c'est-à-dire cette espèce de résistance à tout prix, l'idée qu'il n'y aura pas de retour à la création, c'est-à-dire la réponse de Dieu de la nécessité. Il n'y aura pas de simple retour non plus à la révélation, parce que la loi est assez embarrassante. mais il y a quand même idée, en tout cas, d'une rédemption. Rédemption qui n'est plus simplement donc de la rédemption de l'ordre de l'historiographie salvatrice ou mémorielle, pas simplement non plus de la résistance ou de l'insurrection impromptue, présente, la passion du réel, l'enthousiasme politique, mais au fond d'une ouverture sur des utopies bien plus grandes, comme par exemple celle de la paix, celle de la liberté des individus, de l'abolition de la propriété, ou l'abolition de l'argent, ou en tout cas d'utopies bien plus fortes. Ernst Bloch y reprend la question du messianisme, donc à partir de Job, il l'appelle le Prométhée hébraïque, hein, voilà le mélange. Et qu'est-ce qu'il dit au fond? Il dit c'est le moment où un homme est en train de dépasser son Dieu, qui voit le pouvoir utopique dans la sphère religieuse. Il dit le dernier mot au fond de Job face à Dieu, c'est pas celui qui est à la fin du texte, c'est pas je mets ma main sur ma bouche et je me résigne. Il dit c'est pas celui-là en fait. Le vrai c'est bien cet appel du rédempteur général. Alors cette rédemption, il dit au fond, Job il nous propose un nouvel exode. Bon, il reprend le mot exode, c'est-à-dire sortie des choses. Et là, on va voir, c'est un exode hors de Dieu, à partir de Dieu, mais hors de Dieu pour, évidemment, autre chose. Juste un tout petit mot là-dessus sur cet exode. Pourquoi il prend le mot exode? Il dit, il y en a eu 3 ou 4 avant celui-là. Il y a eu d'abord le premier exode, c'est la sortie d'Israël hors d'Égypte. Donc, ça a permis quoi? Ça a permis précisément de conduire un peuple vers la liberté, d'enraciner la morale universaliste des prophètes dans un territoire, en général. Il parle de ça il y a très longtemps, hein, bien sûr. Avec l'idée qu'il y avait un objectif qu'il fallait conquérir et que c'était très dur. C'est l'exode aussi de Dieu sortant d'Israël, précisément. C'est-à-dire, là, il reprend l'idée que l'on a vue, hein, l'idée de la réduction, en tout cas de Dieu qui sort de sa création, qui laisse la création aux hommes, de cette rétractation divine, hein, le Tzimtzum qu'on a vu ensemble. En tout cas, il voit ça aussi dans ce deuxième exode de Dieu, de la création. Et puis, c'est le troisième exode, c'est ce qui est révélé à Moïse au moment du buisson, c'est-à-dire cette phrase « Je serai celui qui serai ».« Je serai celui qui serai », alors, c'est la vraie définition, hein, qui pose une difficulté, parce que ça ne veut pas dire qu'il sera l'être éternel, mais qu'au fond, il y a maintenant une solidarité du Dieu avec l'histoire des hommes, l'expérience humaine dans le temps, et l'idée d'imprévisibilité précisément de cet avenir. Et donc on aura un Dieu de la fin des temps, avec le futur comme nature profonde de son être, ouvert sur le futur, etc. Et puis précisément, il y aurait l'exode de Job hors de Yahvé, hors de Dieu. On voit bien Job refuser toutes les théodicées, tout ce qu'on a déjà dit au fond, refuser la thèse de la rétribution, du Satan comme bouc émissaire, enfin toutes ces explications qui ne lui plaisent pas. Et donc l'idée c'est qu'il y aurait possibilité encore d'un nouvel exode encore plus grand, qui est au fond utopiser Dieu, on va dire, de cette manière-là. Donc d'une sortie de Dieu, grâce à Dieu en tout cas, où le révolté peut effectivement se définir en tant que tel. Alors, quelle est cette idée-là? Et je terminerai là-dessus. Le messianisme est donc fait pour Ernst Bloch de l'enthousiasme qu'il suscite, l'enthousiasme de Job, de la patience qu'il requiert. Il peut dépendre bien sûr du repentir et des bonnes actions. Il peut venir de temps en temps d'une interruption de la puissance divine, mais là ce n'était pas le cas. Et donc, on peut bien l'identifier à une interruption du cours naturel du monde avec la fin de l'oppression politique en général. Voilà ce que dit Bloch de cet horizon messianique. Le dernier Dieu authentique, inconnu, par-delà tous les autres, celui de notre dévoilement total, vit déjà dès à présent, bien qu'il ne soit ni couronné ni objectif. Il pleure, comme le disaient du Messie quelques rabbins auxquels on demandait ce qu'il faisait. Il pleure de ne pouvoir ni apparaître, ni sauver. Il est celui qui, au plus profond de nous-mêmes, dit « Je suis celui que sera ». Enfin, « Je serai celui qui serait ». Enfin, c'est ça l'idée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, maintenant le Messie, c'est au fond de nous, effectivement, ou c'est ce Dieu au fond de nous qui pleure, c'est-à-dire celui qui fait signe vers une disponibilité vers l'événement, une conscience anticipante qui est disponible à l'interruption de toutes les clartés utopiques en général, qui pressent tous les meilleurs et qui essaye de les atteindre, en tout cas en général. Et donc il dit, ce n'est pas un Messie qui apparaîtrait au milieu des éclairs, mais un Messie chaud et proche, comme notre hôte. L'idée pour Ernst Bloch, c'était l'idée kantienne. Bloch est un admirateur, je crois, de Kant, et l'idée du comme si, de faire comme si effectivement les choses pouvaient être universalisées, comme si les êtres pouvaient s'aimer, dépasser, etc. Au fond, il changeait la phrase de Kant de cette manière-là, c'est-à-dire agit comme si la chose qui peut-être ne sera pas devait être. C'est-à-dire que même si la chose qui peut-être ne devrait pas être, etc., devait être quand même, en tout cas, devait se réaliser. Et donc, il y a, je crois, en tout cas, chez une force chez Ernst Bloch qui est cette philosophie du comme si, de ce Messie chaud et proche, me semble plus forte pour ne pas succomber au nihilisme, à la déréliction, de ne pas se réconcilier trop vite avec le monde, comme le fait Hannah Arendt, de ne pas en rester à une dialectique négative, comme le fait Théodore Adorno, de ne pas angoisser les individus, comme c'est Hans Jonas, par exemple, de ne pas croire à l'avènement catastrophique, c'est Gunther Anders aussi à la même époque, de ne pas non plus en rester simplement à la catégorie de l'attente, comme on voit ça chez Siegfried Krakauer aussi, un contemporain des choses, et puis peut-être ne pas faire non plus le jeu de la politique souveraine, comme c'était le cas avec le sionisme de Gershom Scholem ou d'autres, mais au fond en reprenant les contenus des promesses non tenues et des forces utopiques qui sont dans les œuvres d'art, mais au fond dans les littératures, autour de nous, dans les détails, dans ces petites choses, dans ces petits rêves que tout le monde a, mais qu'au fond ils n'expriment pas ou qu'ils n'essayent pas de réaliser en général. Voilà ce que dit un de ses commentateurs très intéressant, je n'ai pas amené son livre, Pierre Brouwette, dans Témoins du futur. Il faut pour cela rassembler à nouveau tout ce que la culture européenne, mais aussi universelle, peut comprendre de témoignages en faveur du futur et d'un monde suprasensible pour les faire vibrer dans une langue illuminée d'éclats messianiques et nourrie par la pensée du souverain bien. Donc, au fond, c'est ça. Conclusion, et je termine. Conclusion, au fond, l'ère messianique est moins une post-histoire, au fond, que l'antichambre d'un autre monde, ce monde qui vient, comme l'insurrection qui vient, ou un certain nombre de choses à venir, au fond, soit résurrection, soit insurrection, soit tout ce qu'on veut. On voit qu'on a ouvert plusieurs portes ensemble cette année. On a ouvert la porte des larmes, ou de la souffrance, on a ouvert la porte de la prière, ou en tout cas d'un possible Dieu que l'on peut encore prier. On a ouvert la porte de la loi et de la justice, etc. Et puis là, aujourd'hui, on ouvre un petit peu la porte de l'espérance, c'est déjà pas mal. On a été en présence d'un texte prophétique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par le prophétisme ? Eh bien, le prophétisme, c'est le contraire des anges, au fond. C'est l'idée que l'impératif est de notre ressort, que l'impératif permet la création, qu'au fond, peut-être, le messianisme est là avant la création, c'est-à-dire que le mode d'emploi est là avant que la chose soit créée, au fond, ça serait ça l'idée. Les prophètes, au fond, ne prédisent pas tant l'avenir qu'ils renseignent, au fond, sur ce qu'est la signification de la situation actuelle. Ils se laissent orienter par la parole d'un Dieu qui l'oblige à les écouter, à transmettre au peuple son message. Donc prendre attention à la souffrance, prendre attention au pari de l'athéisme, à la possibilité ordinaire du mal comme de la bonté, et puis de nos violences, et à la continuation en tout cas d'espérer ou défendre nos idéaux en général. Donc la prophétie c'est d'abord un avertissement et pas une prédiction, et au fond c'est peut-être là qu'il faut s'attarder de temps en temps dans nos réflexions. Merci.